Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 68e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection d'actu. Une sélection d'actu que je prépare avec mon ami Caféine. Salut Caf.
Ça va bien?
Écoute, ça va, ça va.
Écoute, moi ça va aussi. Je fais semblant d'être attristé par le temps alors que bon, en fait, je m'en fous, je sors pas, donc c'est ça. C'est pas grave, mais bon, j'ai mal. Je m'investis avec les gens qui nous écoutent et qui vont au travail et qui sont peut-être là maintenant tout de suite dans un métro sous la grisaille. Il fait même pas trop froid, arrêtez de vous plaindre.
Une sélection de l'actu un peu plus courte cette semaine, et c'est pour ça que du coup tu en as profité, tu vas nous raconter ta vie, tu m'as dit.
Ouais, non, vous allez voir, on va parler de la PlayStation classique tout à l'heure, et du coup je me suis dit tiens, si je leur racontais des trucs de vieux monsieur, donc voilà, on en parle tout à l'heure.
En attendant, on va commencer avec le gaming. Je voulais vous parler d'Underworld Exporter. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est un petit soft, très léger d'ailleurs, hein, qui permet donc de rejouer à Ultima Underworld avec le moteur Unity, donc dans une version un petit peu plus moderne. Alors, je vous arrête tout de suite pour ceux qui fantasment. On ne parle pas ici d'un remake avec des nouvelles textures, des machins, etc. Non, il s'agit d'aller en fait récupérer les assets du jeu originel, donc qui était un jeu qui tournait sous DOS à l'époque, et de les importer dans un moteur Unity. Pour quelle raison? Bah, tout simplement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus compatible, on va dire, avec les résolutions actuelles de nos écrans. Éviter de passer par un émulateur DOSBox qui n'est pas toujours 100% fiable non plus. Et puis surtout, y jouer dans de meilleures conditions, notamment via le contrôle à la souris qui est quand même beaucoup plus agréable, un contrôle à la Arx Fatalis, hein, tu vois, donc pas comme dans le jeu original Underworld où il fallait cliquer sur les flèches pour que ça bouge. Ici tu peux carrément bouger avec la souris comme dans un FPS traditionnel, donc ça c'est plutôt cool.
Oh putain, les souvenirs de vieux monsieur de ce truc.
Exactement.
Tu me fais du mal.
C'est un torréfaction spécial vieux monsieur.
C'est ce que j'allais dire. Et encore, vous avez pas vu les apps.
Alors je vous ai fait une petite news hier pour vous expliquer comment fonctionne tout ça. C'est pas ultra instantané, donc il suffit pas d'installer le truc pour que ça fonctionne. Il y a quelques petites modifs, faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais je sais que vous aimez ça, donc on vous explique comment faire. Ça marche pour le moment complètement intégralement avec la première version, donc avec Ultima Underworld, le premier du nom. Ça commence à être compatible avec le deuxième, mais pas encore complètement. Et puis il bosse aussi sur une transposition de System Shock et de Terra Nova, donc deux autres titres de l'époque, qui devraient a priori à terme fonctionner également avec je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est pas un émulateur, c'est pas un remake, c'est pas un reboot, enfin avec cette espèce de portage sous Unity.
Ils nous mettent dans la merde parce que c'est compliqué leur truc là.
Ouais, c'est ça, exactement. Bref, je vous invite à aller jeter un coup d'œil par vous-même. Je vous ai linké donc le GitHub du projet où vous pouvez aller récupérer l'exécutable Windows qui vous permettra donc ensuite d'utiliser ça avec les assets. Alors, petite précision, comme je le disais tout à l'heure, il faut posséder le jeu original pour que ça fonctionne. Hein. Le portage n'intègre pas les textures, les sprites, les machins, tout ça. Donc il faut impérativement aller récupérer le soft original. Vous pouvez le faire sur une version GOG, ça fonctionne très très bien. Il faut juste dézipper un petit fichier. Je vous explique tout ça dans la news que je linkerai dans le biais qui accompagne ce podcast. Et puis
moi je vais préciser un truc quand même. Ouais, je t'arrête tout de suite.
Vas-y.
Avant de vous lancer, si vous avez des journées chargées, pas beaucoup de temps et votre nostalgie est très très forte. Non, faites un truc très simple pour savoir si vous avez vraiment envie de le faire. Regardez les vidéos, les présentations du truc. Parce que moi personnellement, ça m'a fait un choc, comme à chaque fois que je regarde des vidéos et mon cerveau se rappelle de trucs extraordinaires. Ce jeu est le titre qui m'a fait passer de l'Amiga au PC à l'époque. Et j'en ai un souvenir de ouf. J'ai passé des heures et des dizaines et des centaines d'heures dans ce truc que j'ai refait dans tous les sens. Et je me rappelais même pas que les bordels, que les personnages, en fait, c'était des feuilles de papier. Tu vois, j'avais oublié ça.
Ouais. Bah, 92 quand même le jeu, donc.
Ça nous rajeunit pas, mais bon, je me rappelle que quand j'avais posé une torche au sol en pente et que le truc avait dévalé la pente, j'étais resté devant mon ordinateur et je me suis dit, c'est le futur! C'était un truc de fou. J'étais comme un dingue devant le jeu.
Ouais, c'est vraiment pour les gros nostalgiques. Enfin, je trouvais l'initiative assez rigolote.
Ah non, c'est génial.
C'est pour ça qu'on avait décidé d'en parler sur
Xbox. Je trouve ça super.
Et puis, gaming toujours, mais pas vraiment. Enfin, je savais pas trop où ranger ce truc-là. C'est un truc un peu étrange. Ça s'appelle Project Eagle. C'est une espèce de démo interactive. On va appeler ça comme ça, qui a été commandité par les gars de la NASA. Et l'idée, en gros, c'est de montrer à quoi ressemblerait une colonie martienne, avec comme base de réflexion, bah, des données très scientifiques et très concrètes fournies par la NASA justement, et par le Jet Propulsion Lab, donc qui est un laboratoire dédié de la NASA qui bosse là-dessus. L'idée, c'est de montrer à quoi ça pourrait ressembler les premières colonies martiennes le jour où on décidera d'aller coloniser la planète rouge. C'est pas vraiment un jeu, donc comme je le disais, c'est plus une espèce de panneau 3D interactif, tu sais, comme dans les musées où tu peux cliquer, tu peux aller voir à quoi ça correspond, etc. Donc t'as pas vraiment de jeu, t'as pas d'objectif à remplir. Tu peux afficher en fait la base, tu peux te balader en 3D avec la souris et tu peux basculer vers un mode qui s'appelle le mode sensor. Et quand t'es dans ce mode là en fait, quand tu passes sur les différents bâtiments, bah il t'explique ce que c'est, il t'explique à quoi ça va servir, il donne un peu de background que j'ai trouvé personnellement peut-être un petit peu léger. On aurait aimé un petit peu plus d'infos, mais bon, il est pas dit que ça va pas être étoffé par l'avenir. C'est une démo, donc c'est gratuit, ça pèse à peine un giga, donc vous pouvez récupérer ça sur Steam facilement. J'avais envie d'en parler parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par l'espace et par la NASA et par Mars sur Geekzone, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être les titiller. Et pour ceux qui sont vraiment qui veulent vraiment du gaming, il y a quand même un petit élément rigolo, c'est qu'il y a des astronautes qui sont planqués sur la map. Je crois qu'il y en a 5, et si vous les retrouvez tous, ça débloque un achievement. Donc voilà, pour ceux qui ont des tocs et qui veulent absolument débloquer tous les achievements de tous leurs jeux Steam, sachez que c'est possible aussi. Voilà, Project Eagle, je ferai une petite news cet après-midi sur le sujet. C'est pas vraiment une révolution non plus. On aurait aimé peut-être un petit peu plus d'infos ou un petit côté un peu plus interactif, mais je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, je voulais en parler. On passe du côté des apps pur jus avec, tu l'as dit, de nouveau un retour dans le passé.
Alors, un truc semi-vieux, monsieur, parce qu'on n'est pas obligé d'installer que des trucs vieux, mais c'est un peu fait pour ça. Porting Kit, qui est un truc que je ne connaissais pas du tout, dont on m'a parlé, au détour d'une bière, dans un bar avec du bruit et tout ça, merci monsieur Saucisse, qui me dit ah, je joue avec ça sur mon vieux Mac pour installer des vieux trucs, c'est trop bien. J'étais là genre, mais qu'est-ce que c'est, bordel, je ne connais pas. Et du coup, je me suis rencardé grâce à lui, et c'est vraiment très pratique et très bien foutu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un wrapper en français, un bordel qui se met autour de vos vieux jeux pour pouvoir les installer facilement.
Un emballeur,
c'est très moche hein, chez nous, c'est compliqué hein. Mais c'est exactement ça. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de vous permettre d'installer un jeu Windows sur Mac ou Linux sans vous prendre la tête à installer un OS complet autour. Donc évidemment, c'est basé sur des trucs qu'on connaît, qui sont Wine Skin, qui sont des trucs qui permettent de faire tourner des softs pro. Mm-hmm. À la base, enfin, les mecs au début, c'était pas le jeu vidéo quand ils ont dans leur esprit au début pour développer ces trucs là. Et puis le jeu vidéo, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus difficile à faire en fait, puisqu'il faut gérer des codes graphiques un peu plus chiants que quand vous voulez installer juste une espèce de vieux tableur Excel pourri dont vous avez besoin là maintenant tout de suite sous Linux. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne très bien, et comme tout à l'heure on parlait de GOG, de GOG, bah, ça marche très bien avec GOG, et c'est, si j'ai bien compris, un des mecs qui met un peu de thunes pour aider le projet, comme par hasard, parce que ça leur permet en fait de récupérer aussi ces versions-là pour les installer sur GOG directement.
Bien sûr.
Mais eux, du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec ce truc-là, ils sont bah, libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et reprendre des jeux qui sont pas forcément dispo sur les plateformes classiques où GOG fait son business. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir votre truc Windows non officiel Mac, parce que vous êtes sur la page Good Old Games, hein, qui s'appelle plus comme ça, je sais, mais bon, bref, où vous voyez que le jeu n'est pas dispo sur Mac, par exemple, ou sur Linux. Et bah, eux, du coup, avec ce truc-là, bah, vont pouvoir vous permettre de jouer avec sur Mac ou Linux. Alors là, moi, j'ai la version Mac. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne hyper simplement. En fait, vous récupérez le jeu sur GOG. Alors, ça marche aussi avec des versions Steam, etc. Mais la version de base, généralement, c'est GOG. Et du coup, quand vous lancez l'installation via ce truc-là, bah, ça se passe automatiquement. Vous avez une fenêtre qui va vous installer le jeu, qui va vous le lancer. Ça vous l'installe dans votre petit répertoire d'applications, nice. dans un répertoire games avec une petite icône, c'est méga propre et vous avez accès à tout un catalogue en fait de tous les trucs émulés, tous les trucs pas émulés justement, mais tous les trucs gérés sur le site web. Donc je vais vous mettre le petit lien dans le billet qui accompagne le podcast et vous y verrez directement si le jeu que vous voulez essayer est disponible. Donc il rajoute sans arrêt des nouveaux titres et comme ça bah, vous êtes sûr que le truc a été testé, que ça fonctionne, ils sont au courant que la telle version il y a un problème, etc. Donc c'est vraiment super bien fichu. Vous allez trouver évidemment en priorité des vieilleries hein, puisque c'est aussi un peu le but, mais il y a des trucs un petit peu moins vieux aussi dans l'histoire où là on va vous prévenir que ça serait quand même pas mal que tu aies une vraie carte graphique dans ton Mac, sinon ça va être un problème. Alors moi j'ai dit depuis tout à l'heure que ça fonctionne avec Linux Porting Kit, je connais que la version Mac, mais comme la tech qui est derrière fonctionne sur Linux, d'après ce que j'ai vu sur un forum, normalement ça fonctionne aussi sur Linux, où il y a une version sous Linux. Donc si vous avez des plus de précisions, j'ai pas eu le temps de creuser la côté Linux parce qu'en plus je n'ai pas de machine sous Linux suffisamment puissante pour tester quoi que ce soit en ce moment, n'hésitez pas à aller sur le forum pour balancer vos tips à vous. Franchement, en tout cas sur Mac, c'est du nap comme on aime, hein, avec une vraie interface, le forum est intégré, le site est intégré, vous avez les news, vous avez un classement des derniers jeux sortis.
Non, puis en plus il y a de quoi faire, je vois qu'il y a plus de 600 jeux là qui sont gérés pour le moment par le soft, c'est pas mal quoi.
Bah voilà, alors pour vous donner une idée, il y a des trucs qui sortent tous les jours, pas tous les jours, mais il y a des vagues de jeux qui sortent régulièrement. Mm-hmm. Là le 14, ils ont sorti Heroes of Might and Magic 5, le 13, il y a un fan de Heroes of Might and Magic chez eux puisque le 13 c'était Heroes of Magic 3 et 4. Mais vous avez des trucs super chelous dont j'ai jamais entendu parler, un Chris Sawyer Locomotion, le Spin Theories, le 4 qui est sorti, je ne sais pas ce que c'est.
C'est pas le truc avec les camions dans la forêt là, qui doivent machin, Spin Tires, ça me dit quelque chose.
Spin Tires, ouais, parce que je vous l'ai fait en français mais ça m'a fait marrer. Bah oui, si, ils ont un truc extraordinaire, ils ont Indiana Jones The Infernal Machine.
Que de souvenirs douloureux.
C'est ça. Ils ont sinon ils ont du Soldier of Fortune, Arcanum est sorti le 20 octobre. Nice. Et donc il y a du Might and Magic 9, il y a du Elder Scrolls 5 Skyrim depuis le 30 septembre 2018, tu vois, incroyable. Donc tout ça c'est des trucs qui sont pas mal. Bah, si vous voulez vraiment avoir des trucs de vieux, je vois que le 3 septembre ils ont sorti Zork Grand Inquisitor qui est pas c'est dès qu'il y a marqué Zork dans le titre, ça arrive.
C'est ça. En fait, il est dans tous les bons coups, lui. Ça, hein, ça Zork, dans tous les trucs d'émulation et des trucs de vieux.
Et dans les trucs qui cartonnent, vous avez même un classement par les plus appréciés. Apparemment, il y a des gros fans de Command & Conquer parce que Red Alert 2 est numéro 1. Avec quasiment 35 000 téléchargements, suivi de Red Alert. Donc, je pense qu'il y a des fans dans le truc. Et il y a quand même plein de gens qui sont à don sur Gwent, tu vois. Donc, Gwent, qui est hyper nouveau, hein, c'est le jeu de cartes de The Witcher, fonctionne à l'intérieur, tu vois. Donc, si vous voulez jouer à Gwent sur Mac, c'est possible. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de version marque. Et je vois qu'on peut aussi perdre des milliards d'heures avec Banished, par exemple, qui est disponible aussi. Bref, il y a du lourd. Allez voir. Et ça fonctionne hyper simplement. Il y a des vidéos explicatives. Pour peu que vous baragouiniez deux mots d'anglais, vous allez vous en sortir.
Porting Kit, donc. On va passer du côté de la culture. Est-ce que tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle Star Wars Galaxies of Adventures ?
Alors, Star Wars, oui, merci. Mais alors, ton Galaxy machin, je ne connais pas du tout, non.
Alors, en fait, ça part d'un constat chez Disney qui est le suivant, c'est de se dire que y a pas mal de gens qui ont grandi avec la franchise Star Wars et principalement les premiers films qui sont aujourd'hui parents et qui en beau jour se disent « mais je vais essayer de mettre mes mômes à Star Wars, leur faire découvrir » et ça se passe pas toujours très bien parce que d'une part ça a un peu vieilli.
Mais non, pas du tout, il y a qu'à leur montrer Jar Jar et ça va être génial.
C'est ça. C'est un peu vieilli et puis ça reste du cinéma, donc on sait que les gamins sont plus fans de tout ce qui est animation en général. Donc Disney s'est dit, c'est pas grave, on va prendre le taureau par les cornes, on va faire un truc pour ça justement. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre en place donc Galaxy of Adventures. Alors c'est quoi ? C'est une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Star Wars Kids, qui va normalement ouvrir aujourd'hui, donc le 30 novembre, et qui va proposer 6 courts-métrages. Pour le moment, il y en aura d'autres après. Ils sont des courts-métrages d'animation, donc c'est un format court en animation qui vont reprendre donc les moments clés de la franchise ciné Star Wars, donc pour justement permettre aux gamins qui découvrent Star Wars aujourd'hui via The Last Jedi ou les films plus récents, de rattraper un peu leur retard plus simplement en fait quand les collants devant 2h30 de cinéma, tu les mets devant les courts-métrages et ça va leur raconter l'histoire de Star Wars de manière accélérée avec une animation qui est plutôt cool. Enfin pour le moment il y a qu'un trailer d'une minute trente, donc c'est toujours un peu difficile de juger. On vous refera une petite news à l'occasion quand on aura eu l'occasion de mater les 6 courts-métrages. Mais donc voilà, c'est une chouette initiative. Ça sort aujourd'hui donc sur un nouveau site web et une nouvelle chaîne YouTube. La chaîne YouTube donc qui s'appelle Star Wars Kids, et le court-métrage, enfin les courts-métrages s'appellent donc Star Wars Galaxy of Adventures. On va passer du côté de la tech et on va parler d'abord de nos amis les Lootbox, hein, puisqu'on en reparle là, avec l'actualité en ce moment du côté des États-Unis, mon cher Caf. On a essayé de dépatouiller tout ça en préparant l'émission et c'était pas facile parce que c'est un peu le bordel.
C'est ça.
Donc on rappelle, hein, les Lootbox, c'est quoi ? C'est un truc problématique en fait, puisque c'est intégré dans les jeux aujourd'hui et ça, bah, ça cause pas mal de questionnements légaux. On l'a vu, on en a parlé il y a pas longtemps en Belgique, aux Pays-Bas notamment, il y a eu des décisions de justice qui interdisaient les Lootbox dans certains titres comme Counter-Strike. Tu me parlais de Overwatch tout à l'heure.
Ouais, il me semble bien.
Voilà, l'idée c'est... est-ce que tu peux rappeler l'idée des lootbox en 12 secondes en fait ? Tu le feras mieux que moi, je pense.
C'est hyper simple, hein. C'est au lieu de vous vendre une skin, un objet, etc. disponible directement dans le jeu vidéo contre espèces sonnantes et trébuchantes, on vous vend une boîte avec dedans, à l'intérieur, des trucs random qui vont être... alors généralement on vous dit ce que vous pouvez avoir techniquement, et on va tirer au sort un certain nombre d'objets, ou un seul, ça dépend des jeux évidemment, dans le panel des trucs disponibles, et du coup si vous voulez un truc spécifique, il faut acheter plusieurs boîtes pour pouvoir avoir peut-être une chance à un moment de l'avoir ou pas, hein, un peu comme quand vous achetiez des trucs dans les jeux à tirette quand vous étiez gamin, pour si vous êtes vieux comme moi, parce que ça existe plus beaucoup.
Non.
Mais c'est un principe qui est aussi hyper répandu au Japon, on appelle ça aussi les gachas, qui nous vient en tout cas dans le monde du jeu vidéo, qui a pourri nos jeux normaux via les jeux mobiles en fait, parce que c'est un truc très répandu dans les jeux asiatiques.
Voilà, et donc comme je le disais tout à l'heure, ça a été dénoncé notamment en Belgique, aux Pays-Bas, où c'est associé donc à du gambling, donc du jeu. Et effectivement, c'est un truc que on peut pas faire avec les gamins. On peut pas amener les gamins en casino en quelque sorte. Donc ils ont décidé que c'était pas très très bien. Et les États-Unis commencent à s'y intéresser aussi, mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore à des décisions de justice. C'est une sénatrice de l'État du New Hampshire qui s'appelle Maggie Hassan, qui lors d'une audience d'un comité qui est supervisé par le Congrès justement sur le sujet, le 27 novembre dernier, a demandé donc au FTC, donc le Federal Trade Commission, qui est l'organe indépendant qui est chargé en fait de protéger en quelque sorte les consommateurs et les droits des consommateurs, et de vérifier que tout ce qui se passe au niveau des produits vendus dans le pays n'enfile pas les consommateurs. C'est quoi en France, c'est la DGSRF,
mais c'est des gens qui ont du boulot et qui ne le font pas assez, parce qu'il y a du lobby de l'autre côté pour évidemment bloquer ces gens-là.
Évidemment. Donc elle a demandé principalement que la FTC commence à s'intéresser un peu au problème, enquête un peu sur le sujet et essaie de revenir derrière donc avec des propositions légales pour essayer de cadrer un petit peu tout ça. En gros, le président du FTC a dit ok, d'accord, on va regarder un peu ce que c'est. Alors il y a des sites, tu m'en parlais tout à l'heure, notamment de Next Web, qui grognent un peu sur l'angle qui a été choisi donc par cette sénatrice du New Hampshire, qui elle veut donc justement essayer de démontrer que la problématique elle est liée donc au gambling, comme ça a été le cas en Belgique et aux Pays-Bas. Donc on peut pas faire ça avec des gamins. The Next Web, lui, considère que la pratique, elle devrait plutôt attaquer d'un point de vue global, c'est-à-dire dans le sens où ça pose problème par rapport aux joueurs qui ont pas qui décident de pas jouer le jeu des lootbox en fait, et qui du coup sont défavorisés en jeu. Alors, on en parlait tout à l'heure hors antenne en préparant l'émission. Pour nous, c'est pas une bonne solution en fait. Nous, on se dit que c'est mieux d'aller attaquer titre par titre, parce que comme tu le disais tout à l'heure en préparant le sujet, effectivement, il y a des jeux sur lesquels c'est plus problématique puisqu'il y a de la revente derrière en fait.
En fait, chaque jeu a sa propre intégration des lootbox. Donc quand c'est du jeu de hasard, très bien, ok, mais derrière il y a des jeux où tu peux pas sortir le produit, le truc que t'as gagné du jeu, donc tu peux pas le donner à quelqu'un, tu peux pas le revendre, tu peux rien en faire. Donc c'est juste que la pratique commerciale est chiante et quelque part malhonnête, puisqu'on essaye de te faire dépenser plus pour avoir un objet qui a une valeur X, ce qui est complètement con. Enfin, en tout cas, il faut évidemment pas rentrer là-dedans, voter avec votre porte-monnaie, mais il y a des gens dont le cerveau est trigger et bien motivé par ce genre de conneries, donc forcément ça marche quand même très très bien. Et il y a des jeux où c'est encore plus problématique. On pense aussi au titre Valve côté Steam justement, où t'as accès justement derrière un market où tu peux revendre les trucs que tu as gagné. Et là ça dépasse largement le cadre du jeu vidéo, puisqu'on se retrouve dans des problématiques de revente et donc de blanchiment d'argent. C'est utilisé pour faire plein de trucs qui sont pas très jolies, puisque là on touche à l'économie réelle et ça devient un gros bordel très très vite. J'ai jamais vraiment compris pourquoi Valve allait dans cette direction là, à part pour prendre ses 30% au passage.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même, là, c'est, on a les chiffres, c'est d'ici 2020, on projette que ça rapporte environ 50 milliards de bénéfices, oui. ces espèces de lootbox, donc
c'est pour te dire qu'ils y sont tous, quoi. Oui, voilà. Après, justement, la connerie dans l'histoire, c'est que les mecs ont toujours pas pigé, en tout cas les développeurs de jeux vidéo, que c'était hyper déceptif pour les joueurs, c'est ultra frustrant. Et il y a un jeu qui actuellement a 200 millions de mecs qui sont dessus, ça s'appelle Fortnite, et Fortnite, il n'y a pas de lootbox, ils se font des couilles en or. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont réinventé la tête de gondole, en fait. Hein. Ils se sont pas pris la tête, il n'y a pas de lootbox, ils sont pas emmerdés, mais par contre, il y a les ventes en durée limitée. Mais au moins, il n'y a pas de... Alors, tu crées, comment ils appellent ça, le FOMO chez les Américains.
Fear of missing out, ouais.
Voilà, là, tu te dis, ok, il faut que je me connecte tous les jours pour aller voir ce qui est sorti, etc. Il y a une rotation comme ça des objets, et il y a des trucs qui sont dispo tout le temps. Mais ça marche très bien, et il n'y a pas de lootbox. Donc déjà, le niveau d'embrouille est bien moindre. Et du coup, il y a pas mal de développeurs qui sont en train de réaliser que c'est quand même bien aussi. Il suffit juste d'avoir des assets, de vendre des trucs un peu intéressants, tout bêtement. Hein. Et il y a des jeux qui font de la lootbox à outrance et qui ont finalement tué leur marché de base où ils vendaient des trucs directement. Je pense à Rocket League, qui est tombé dans le piège des lootbox à mort. Alors ça a l'air de bien fonctionner pour eux, mais moi je leur donnais de l'argent quand je pouvais acheter directement les bagnoles, alors que là pas du tout. Et en plus ils se font niquer entre guillemets, puisque il y a de la revente. Les lootbox, en fait, tu les as directement, et pour les ouvrir il faut une clé, donc tu achètes les clés. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Chaque jeu a son système de lootbox, ouais, un peu différent. PUBG fait la même chose, hein. Faut acheter les clés pour avoir les caisses que t'as récupérées et tout. Je trouve ça insupportable, bref. Et du coup il y a des sites web qui se sont montés, par exemple sur Rocket League, où on peut s'échanger les objets. Moi, voilà, je t'échange la bagnole bidule contre deux clés, ou contre telle texture et telle bagnole, etc. Donc c'est un truc qui leur échappe complètement, et quelque part, en plus, c'est pas bon pour eux, puisqu'ils n'ont pas le contrôle sur le site. S'il y a des arnaques, etc., eux, ça impacte la marque, ça impacte leur jeu, l'expérience de leurs joueurs à eux. Et ils n'ont pas du tout la main dessus. Donc, pour moi, c'est complètement con, et c'est un truc qui devrait disparaître, entre guillemets, si les devs, enfin, pas les devs, mais plutôt les éditeurs, bonjour, n'étaient pas greedy as fuck, et voulaient pas, justement, se faire un max de thunes avec des trucs qui sont quand même, mais genre, ultra limite. On parle vraiment, c'est du jeu de hasard. Et c'est juste dégueulasse, point.
Ouais, voilà, c'est ça. D'un côté, on a le côté, comme tu disais, blanchiment d'argent, etc., qui est discutable. Et puis, même si on considère que ça, c'est pas très grave, ça reste quand même un pied à l'étrier du gambling pour les gamins qui vont développer quelque part une dépendance pour certains à ce réflexe de jouer à des jeux d'argent, etc., ce qui n'est pas non plus une bonne chose.
Je voulais chercher les papiers sur les gamins qui piquent les cartes bleues de leurs grands-parents pour acheter des skins sur Fortnite, et c'est pas des lootbox, mais les gamins sont déjà accros en se disant je veux ce truc-là, je le vois, j'ai le droit de l'acheter. Non, t'as pas de travail, t'as pas d'argent, mais tu vois, c'est des concepts que les gamins ont pas à ce moment-là. Donc c'est hyper compliqué, et puis ça crée des problématiques dans le jeu, puisque s'il y a toujours d'ailleurs autant de cheaters dans un PUBG, par exemple, oui, c'était à cause de ça, parce que il y avait des équipes complètes de Chinois qui venaient farmer les skins dans le simple but de les revendre derrière. Mmh. Donc ça pervertit complètement le bordel. C'est hyper dangereux.
Voilà, donc on suivra ça de très près aux USA, donc la FTC qui s'y intéresse. Enfin, ça va peut-être un peu bouger de manière plus globale. Et puis, on va enfin te laisser parler de tes souvenirs de petit vieux.
Non, pas tout de suite.
Pourquoi ?
Parce qu'on va expliquer la PlayStation classique d'abord.
D'accord, ok. PlayStation classique, donc pourquoi est-ce que tu voulais nous en parler ?
Alors, on en a parlé déjà la semaine dernière, on avait parlé des jeux dispo, etc. Donc, je rappelle vite fait pour ceux qui ont loupé, ça sort le 3 décembre, ça coûte 99€. C'est une toute petite PlayStation en plastique, comme la PlayStation qui est sortie il y a maintenant bien, bien longtemps. Elle est adorable. Ils ont fait ça super bien avec des pads hyper rigolos, etc. Et en fait, le problème, c'est quand tu la branches, il y a des petits soucis. Donc, je vous ai mis en lien le test de Ars et The Verge, qui sont en anglais, je suis désolé, mais qui sont les plus complets avec plein de photos, qui parlent de la problématique. La problématique, elle est très simple, c'est que la bestiole, elle utilise dans son émulation des jeux PAL pour plein de jeux qui sont proposés, des jeux PAL. Donc, vous allez me dire, oui, c'est le format européen, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, les gars, si vous avez joué aux jeux vidéo quand vous étiez plus jeune, ou si il faut un certain âge et les cheveux un peu blancs sur les tempes au moins, c'est qu'en fait les jeux PAL vont moins vite que les jeux NTSC. Et du coup, on se retrouve avec des jeux 17% moins rapides que les versions NTSC, donc le format américain, ce qui fait grincer plein de dents, puisque c'est pas que les jeux étaient adaptés au marché français, en fait, hein, on se tapait des versions juste plus lentes que les versions originales, en tout cas telles que voulues par les devs.
Ouais, mais tout compris, même la musique, si je me souviens bien, en plus.
Alors, oui, ça pouvait impacter le jeu de différentes manières, ça dépend comment c'était codé, tout bêtement, mais c'est assez relou. Du coup, ça, c'est une vraie boulette de la part de Sony. Il y a aussi un vrai problème sur, là c'est le papier de Ars qui en parle plus, avec une gestion des sauvegardes et des points de sauvegarde qui est moins bien foutu que sur les Nintendo Mini et compagnie, donc ça aussi c'est hyper décevant, surtout qu'il y a de la place. Techniquement, la bestiole, elle aurait très bien pu le faire, c'est que le software exploite même pas en fait les capacités de l'émulateur open source qu'ils ont utilisé, ce qui est un petit peu con. Donc en fait, l'émulateur, quand vous l'installez sur une Raspberry Pi par exemple, vous avez plus d'options que ce qu'il y a sur le truc à 100 balles que vous venez d'acheter. Alors c'est un peu con, tu vois, tu peux pas faire d'émulation de Skyline par exemple, t'as pas autant d'options graphiques, etc. Ce qui, alors je veux bien qu'on simplifie les choses, mais c'est un petit peu dommage quand même. Et puis l'autre truc qui était intéressant, c'est que du coup Polygon a sorti un énorme dossier sur Ken Kutaragi en s'appuyant sur le fait que, eh bah tiens, regardez, c'est l'anniversaire de la bestiole, il y a ça qui sort et tout, c'est hyper rigolo, on va se faire un petit dossier sur Ken Kutaragi, auquel Ken Kutaragi, le créateur de la PlayStation, n'a pas participé, parce que le monsieur il est à la retraite tranquillou, enfin il est pas vraiment à la retraite, hein, mais il fait des trucs dans son coin et il est beaucoup beaucoup moins visible que à l'époque. Et en revanche, ils ont trouvé quoi à écrire, 24 petites histoires qui sont tirées des souvenirs de différents collaborateurs à plus ou moins haut niveau, et c'est hyper intéressant. Il y a vraiment pas mal de trucs hyper drôles dedans, et ceux qui sont allergiques à l'anglais pourront en découvrir quelques-unes qui ont été traduites en VF chez Gamekult et adaptées dans une news assez grande, donc ils en ont repris pas mal, qui sont vraiment intéressantes et qui font transparaître que le monsieur avait quand même une sacrée personnalité ce qui était quelque chose qui ne faisait pas de doute déjà à l'époque. Il faut savoir que le monsieur en fait est un peu considéré comme le Steve Jobs japonais, mais avec les défauts qui vont avec, c'est-à-dire qu'il gueulait très fort, son boss était un peu son larbin en fait, il en avait un peu rien à foutre, il a essayé de virer son propre boss, enfin il lui a dit
pas mal,
tu devrais démissionner parce que vraiment t'es trop un con, et c'est dans les petites histoires, alors je paraphrase un peu violemment, hein, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais ça fait partie des histoires que vous retrouverez dans le truc de The Verge, et c'est hyper drôle parce que voilà, le mec, s'il avait été poli, et ça c'est tout le monde se dit la même chose, s'il avait été poli, gentil, et s'il avait travaillé à la japonaise, il n'y aurait jamais eu de PlayStation, Sony n'aurait jamais fait de jeux vidéo, et il se serait jamais rien passé, et c'est lui qui a vraiment bouger le truc à bras-le-corps, et il y a des histoires qui sont jamais sorties avant, parce qu'évidemment il y a des trucs, tu vois, entre l'esprit japonais, on parle pas de ce genre de choses, etc. Et le fait que effectivement les mecs impliqués sont soit plus dans le jeu vidéo, soit, enfin faut aller les chercher si tu veux pour un genre d'info. Là il y a des trucs qui commencent à sortir et qui sont hyper intéressants sur comment ils ont réussi à déclencher le projet, comment ils ont réussi à finalement bouger et contourner tous les mecs qui voulaient pas que ça se fasse, parce que évidemment il y a eu des guerres de fous entre Sony Music, la division ordinateur, enfin tout, il y avait des mecs qui avaient un ego qui faisait qu'ils voulaient pas aider ce projet, tu vois, ils voulaient pas que Sony fasse ça allait empiéter sur leur terrain, et ça les emmerdait puissamment. Donc hyper intéressant, je vous conseille la lecture du truc, et du coup moi ça m'a rappelé mes jeunes années.
Parce que un jingle les histoires de jeunesse de CAF, hein.
Les histoires de tonton CAF.
C'est ça.
Tu vois, le truc qui nous ramène au siècle dernier, puisque là, on est quand même en train de parler d'un truc qui s'est passé en 1996, je crois. Donc, il y a plus de 20 piges. Bim! Qu'est-ce qu'il y a? Qui était mon premier voyage au Japon, en fait.
D'accord.
Pour aller rencontrer Monsieur Ken Kutaragi, invité par Sony, je bossais à RTL à l'époque, et on faisait l'émission tous les soirs dans un état proche de l'Ohio d'ailleurs, puisque avec le décalage horaire c'était un peu compliqué pour moi, et j'enregistrais en rentrant de soirée direct, enfin j'enregistrais pas d'ailleurs, j'étais en direct sur RTL souvent avec quelques grammes dans le son, ce qui a donné des émissions intéressantes. Je suis hyper content que les gens avaient pas, tu vois, il y a pas internet, il enfin, y avait ça, internet, ouais. Mais personne s'est fait chier à enregistrer ça, et donc on s'en sort plutôt pas mal. Je me rappelle d'une émission comme ça qui avait été pas mal, mais je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais tu me fais penser à vous parler de Square Enix après. Enfin, ça s'appelait pas Square Enix d'ailleurs, ça s'appelait Square tout court à l'époque.
D'accord.
Mais du coup, je pars là-bas. Première blague, c'est que c'est pour ceux qui regardent la télé, l'e-sport, etc. J'ai Bertrand Amard qui me file une caméra pour me dire ah là là, tu pars, tu vas faire des trucs, tu vas pouvoir filmer. Et nous, on n'avait pas de smartphone à l'époque. Hein. Tout le monde n'était pas en train d'expliquer tous ses repas à base d'Instagram. donc je pars avec la cam, je dis mais tu sais, moi j'ai jamais cadré, j'ai jamais rien filmé, etc. Et je vous confirme, je n'ai jamais filmé, et depuis non plus d'ailleurs, puisque aucune image n'était exploitable sur le truc, entre le fait que je l'oubliais régulièrement, la pauvre caméra qui était pas du tout de la taille d'un smartphone non plus, hein. En 96 c'était un petit peu des gros trucs, et puis le fait que bah, je ne sais définitivement pas cadrer, et puis j'avais pas trop la patience de le faire, donc c'était un peu compliqué. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça, parce que à l'époque on a évidemment été rencontré, interviewé Monsieur Kutaragi et aussi plein de développeurs de jeux vidéo. Mais pendant l'interview de Ken Kutaragi, s'est passé un truc assez drôle que j'avais déjà raconté soit en privé, soit sur des différents petits trucs, mais je me rappelle pas l'avoir dit dans un podcast. C'est que en gros, on est en 96 et le mec commence à nous dire la PlayStation, tu vois, elle est toute neuve, entre c'est vraiment pas vieux. Mm-hmm. Et le mec nous dit ouais, c'est vraiment bien, on est content de ce qu'on a fait, etc. Mais vous voyez, ce qu'on aimerait bien faire, franchement, moi, ce qui m'éclaterait, ça serait de faire une PlayStation avec un écran, et puis on pourrait y jouer partout. Et comme ça, ça serait vraiment plus cool, parce qu'en plus, on pourrait faire un écran avec une définition de la mort, les jeux seraient magnifiques et tout. Et là, on fait bah ouais, c'est une super idée, mais une console portable comme ça, enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. Et puis moi, je vois la RP à côté qui se décompose. Là, donc la RP, la nana qui gère les relations presse, si tu veux. Et en fait, le gars est en train de nous parler de son projet qu'il avait dans sa tête, hein. Et ouais, c'est ce qui ressort du papier de Polygon, c'est que le mec avait toujours 4 ans d'avance sur ce que les, quand il bosse, la PlayStation 1 sort, il est déjà en train de travailler sur la 2, tu vois, il s'en fout de là, hein. Ça y est, c'est fait, ça l'intéresse plus. Et du coup, le mec est en fait en train de nous parler de la PSP qui est sortie 6 ans après. Donc le mec, il était déjà en train de se dire, ok, il faut qu'on arrive à packager tout ça dans un truc tout petit, ça va être génial. Sachant qu'il avait torturer entre guillemets ses ingénieurs pour faire la PlayStation 1, puisque les premiers kits de développement, ça faisait la taille d'un bon vieux gros PC Packardel, tu vois, et qu'il était extrêmement fier d'avoir réussi à faire tenir tout ça dans le form factor, enfin dans la PlayStation 1 qui était extrêmement réussi, tu vois.
Ouais.
Donc c'était assez marrant, et toute l'interview, toutes les trois phrases, il y avait la RP, la personne en charge de vérifier la communication de Sony, qui se levait et qui disait « Veuillez noter que ceci représente que la vue de Monsieur Kutaragi et pas la vue de Sony Machin Entertainment. » Ce qui était hyper drôle, parce que du coup, le mec, lui, voilà, c'est un passionné, il parlait des trucs qui l'intéressaient, mais il n'était pas du tout en train de calculer sa com comme l'aurait voulu entre guillemets la Sony, et ce qui lui a valu pas mal d'emmerdes, j'imagine, en
un
interne.
Petit côté Peter Molineux quand même.
Non, parce qu'en fait tous les trucs qu'il a dit, il les a fait finalement, tu
oui,
vois.
C'est ce que j'allais dire, c'est le Peter Molineux qui concrétise ses bullshit.
Parce que le mec, quand il dit je vais faire une PlayStation, on va pouvoir y jouer, nous à l'époque c'est la science-fiction, mais il l'a fait, le mec. La PSP à l'époque, il y avait juste pas d'équivalent. Il y a eu des consoles portables évidemment, mais dans ce niveau de finition et avec ce niveau de qualité, alors après elle a eu le succès qu'elle a eu, mais techniquement c'était un putain d'engin. Donc ça, c'était assez rigolo, et donc voilà, je suis hyper content d'avoir vécu ça. J'étais parti avec mon futur boss chez Joystick d'ailleurs, Iggy, et on avait des traductions avec notre ami Banana Sun, ce qui était rigolo parce que comme les gens ne calculaient pas du tout qu'on avait quelqu'un qui parlait japonais avec nous, ça a donné lieu à des trucs assez marrants. Ils partaient du fait qu'on était quand même nul en japonais, ce qui est pas complètement faux, hein, mais on avait notre espion. Et du coup, on a eu des trucs rigolos. Le plus drôle qu'on a eu, c'était chez Namco, où on avait vu une présentation. Moi, j'ai posé la question qui fait chier tout le monde. Il parlait je me rappelle plus comment ça s'appelait. Oh là là, les fans vont m'insulter, mais le jeu de tir avec le light gun, donc tu tires sur l'écran avec ton flingue. Qu'est-ce
qu'on Time Crisis?
C'était peut-être celui-là, je me rappelle plus lequel c'était, mais moi, je pose la question chelou. C'est-à-dire que c'est des pistolets qui fonctionnaient jamais sur les télés 100 Hz. Faut vous rappeler, les gens avant le LCD, il y avait des télés avec des écrans cathodiques. Je sais, ça fait du mal de se rappeler de ce genre de choses, mais les écrans n'ont pas toujours été plats. Et du coup, je leur dis, mais oui, ça marche sur les 50 et 60 Hz, mais est-ce que ça va marcher sur les 100 Hz et tout? Parce que les derniers light guns, ça marchait pas et c'était hyper chiant. Et là, je me rappellerai toujours, il y avait deux japonais, il y avait deux tables qui se faisaient face, si tu veux, un peu anglais, et il y avait deux japonais sur chaque table. Les mecs se sont parlé/engueulés pendant 5 minutes. avec des trucs, c'est parti, ça montait dans les tours en japonais et tout. Toi, t'es là, genre, ok, moi, j'ai posé une question, je crois qu'il fallait pas.
Oups.
Et j'ai Banana-san qui parle japonais, qui était en train d'essayer de se retenir de pleurer. Il pleurait de rire. Il me fait, voilà, oh là, c'est énorme, c'est énorme. Et à la fin, le mec me répond, no.
Résumé laconique. Hein.
J'étais là, genre, ok, mais encore, enfin, je veux dire, t'avais pas un autre truc. Et il me fait, non, non, bah non, non, ok, d'accord, ok, très bien. Et ben, ça, il fait, non, non, mais c'est bon, insiste pas, je te raconterai après. Et effectivement, donc, il s'est passé ce que j'avais senti qui se passait, c'est que les mecs se sont engueulés, disons, mais je t'avais dit qu'il fallait se faire chier à gérer ce truc-là, et tu voulais pas, voilà, pour une pièce qui coûte 10 balles. Enfin, je sais plus comment c'était tourné, mais en gros, les mecs savaient très bien que ça allait être un problème. Et en tout cas, il y en avait deux qui le savaient très bien, et puis un qui avait dit, on va pas se faire chier avec ça. Et voilà, tu perds, toi. Donc voilà. Et après, ils ont sorti. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des light guns après, mais celui-là, en tout cas, c'était mort, ce qui m'avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et puis pour terminer, juste, donc s'il y a des gens qui ont mon intervention sur RTL en stock quand je reviens de chez Square Enix, faut que j'arrête de dire Square Enix parce que c'était Square tout court à l'époque, ouais. C'est vieux, et on nous avait présenté des jeux qui étaient encore à l'époque rarement finalement adaptés correctement chez nous. Et il y avait une soirée, et moi je suis rentré à 3h du mat, et donc du coup c'était l'heure de mon direct sur RTL, comme tous les soirs. Et je bossais, donc je faisais l'émission avec Francis Zégut, et Zégut était mort de rire parce que j'étais là genre, alors franchement c'est super cool, alors Square Enix, Square c'est super, et alors
j'espère qu'on va pouvoir retrouver ça,
et c'est génial, et apparemment c'est juste nul, et lui il est mort de rire tout le temps, et quand je suis rentré du Japon il m'a dit, alors meilleure émission de la Terre, celle-là, elle est gold. Et j'ai même pas la cassette quelque part, donc je suis hyper triste. Il y a pas Lina.
Francis, si tu nous écoutes, tu dois avoir les
personne,
archives.
Personne, là, je crois que les archives RTL, c'est la misère pour y aller, c'est l'enfer. Donc voilà, donc ça, c'était hyper rigolo. C'était mon premier voyage, donc j'ai rien vu, du Japon. En plus, à l'époque, tu étais trimballé d'une conf à une autre, finalement. Donc j'avais pas vraiment pu profiter du pays. Mais par contre, j'ai des souvenirs et des histoires assez rigolotes. D'ailleurs, vous allez voir dans le papier de Polygon, à Chris Dering, le patron de SCE Europe, qui est interviewé. Et donc, j'ai passé toute ma semaine avec lui. Et le mec, c'est mon dieu de la British attitude. Le gars nous a enterrés tous les soirs, alors que c'était le senior, tu vois, le mec qui avait 20 ans, quasiment plus que nous tous. Il nous a couchés tous les soirs, et le lendemain matin, à toutes les presses, il était en costard, trois pièces, nickel, genre chapeau melon et bottes de cuir. Et il nous a tués, mais alors qu'il y avait un autre journaliste anglais, il y a un jour, il s'est pas levé, le mec. Le mec, il n'a pas pu aller faire la présentation, il s'est fait défoncer. Il était tellement mal de l'énorme mine qui s'était mis la veille qu'il a jamais pu lever, aller au rendez-vous, ce qui est fabuleux, ça s'est très bien passé, comme vous pouvez l'imaginer. Et quand on a pris l'avion du départ, il y a Chris Dering qui me regarde et qui fait, tu vois cette navette? Je me rappelle jamais l'avoir pris en ayant dormi. Et moi, j'étais au bout de ma vie. Dès que le truc s'est mis à avancer, j'ai cru que j'allais vomir dans le truc. J'étais tellement pas bien. On avait fait le marché aux poissons Tsukuji la veille. Et du coup, on était tous, comment dirais-je, un peu imbibés. Tu vois, on avait pris une douche et puis on était parti reprendre notre avion pour rentrer en Europe. C'était très, très, très compliqué. On avait bien rigolé. Et le mec, lui, était impeccable. Il sentait bon. Je ne comprends pas vos super pouvoirs, monsieur. C'est très, très dur. Donc voilà. Et donc, lui, il avait failli se faire virer. Il raconte chez Polygon parce qu'il voulait faire des bundles et Ken Kutaragi ne voulait pas faire de bundles. Et un jour, il en a fait un dans son dos, entre guillemets, avec un tout petit, de rien du tout, en Allemagne. Mais ça, c'est su. Et il s'est fait défoncer. Il a fallu des années, je crois. Non, ça a pris plus d'un an pour que Kutaragi lâche l'affaire là-dessus et réalise que, pour vendre des consoles, c'est pas mal de mettre des jeux dedans quand même.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà. Donc, ce sont les petites histoires de
Tonton Caf. Les histoires de Tonton Caf.
Et c'est la fin de ce 68e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine dès 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis d'ici là, on va passer un bon week-end, se poser un peu. On va aller jouer à Ultima Underworld ou pas?
Non, faut pas déconner avec ça. Je vais essayer de faire des jeux modernes, vous allez voir. On peut y arriver.
Allez, à la semaine prochaine, bon week-end. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités, le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.